7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins sur RFI, du lundi au vendredi pour parler de nos modes de vie. Aujourd'hui, quel avenir pour les supermarchés? Guerre des prix dans les pays du Nord, où le modèle des supermarchés doit se renouveler sans cesse pour coller aux attentes des consommateurs. Mais en Afrique, au contraire, les supermarchés semblent avoir le vent en poupe, avec l'émergence d'une classe moyenne urbaine. Avec du pour, avec du contre. Amélioration des normes sanitaires, de la chaîne du froid, par exemple. Mais qu'en sera-t-il de la production locale et du petit commerce? Nous allons tenter de répondre à ces questions à la lumière de ce qui se passe dans des pays où les supermarchés ont déjà une longue histoire, comme la France, un des leaders de la grande distribution dans le monde. Pour en parler, je reçois Olivier Dauvert. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes consultant, spécialiste de la grande distribution. Vous avez un site d'ailleurs qui est consacré entièrement à la grande distribution. Également en liaison avec nous, Martine Donnette. Bonjour.
Bonjour.
Martine Donnette, vous êtes la présidente de l'association En Toute Franchise qui défend les petits commerçants et vous êtes l'auteur de Seul face aux géants. Vous êtes à Aix-en-Provence en liaison avec nous grâce aux moyens techniques de France Bleu Provence que l'on remercie bien sûr. Vous vous battez en gros depuis plus de 20 ans maintenant contre les abus de la grande distribution en France. Et puis on sera également en ligne en fin d'émission avec le Canada. Il sera très tôt pour Benoît Duguay qui est spécialiste de la consommation en Amérique du Nord. Il nous dira si le toujours plus grand séduit encore les consommateurs nord-américains. Il est professeur à l'École des sciences de gestion de l'Université du Québec à Montréal et il publie Consommer aux éditions Lubert. Et pour vous, les voisins, appelez-nous, dites-nous ce que représentent les supermarchés dans votre vie de consommateur. Hygiène, prix, concurrence avec le petit commerce. Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. Je vous rappelle le numéro 33 1 84 22 71 71. Allez, je vous lis quelques messages postés sur les réseaux sociaux. Bien sûr, vous pouvez réagir. Mamadou, à Dakar, les Citidia sont presque partout à Dakar maintenant. Ils sont très pratiques, on y trouve de tout à moindre coût. Le seul hic, les dates de péremption. J'ai l'impression d'acheter mon produit et de devoir le consommer tout de suite pour ne pas qu'il parte à la poubelle. Dans les boutiques du quartier, on peut rendre au contraire la marchandise périmée. Dans les supermarchés, ce n'est pas possible. Voilà, Citidia du groupe Carrefour. Beaucoup d'auditeurs nous disent au contraire que c'est plus cher que le petit commerce. Alors évidemment, on attend vos réactions. Abdoul Karim, 45 ans, qui est à Boaké. Au nord de la Côte d'Ivoire, les supermarchés ronds sont réservés à une certaine classe sociale. Nous, on préfère les marchés et les vendeurs ambulants. On y trouve pratiquement les mêmes produits et à des prix tout à fait raisonnables, parfois plus intéressants. Djibril, lui, est à Kaï, l'ouest du Mali, en supermarché. Tu payes le prix indiqué sur l'étiquette de l'article. Ça, c'est clair. Or, j'aime bien marchander les prix, nous dit Djibril, mais je sais que les produits du supermarché ont été contrôlés, alors que ceux du marché en vrac ne le sont pas. Voilà, ils sont très lucides, nos internautes, jusqu'à maintenant, Olivier Dauvert.
Oui, ils ont globalement posé le bon diagnostic, c'est qu'un supermarché, quand il arrive, c'est pas forcément lui qui fait baisser les prix, il amène autre chose d'abord, la sécurité sanitaire, parfois plus de choix, le prix juste fixé pour tous les consommateurs, même s'ils ne marchandent pas.
Oui, le prix juste, bon, ça on en rediscutera.
Un prix qui est le même pour tous. Ouais, voilà. C'est ça le prix juste. Ouais. C'est que deux consommateurs qui passent l'un après l'autre sont sûrs de payer
le prix à la tête du
client. Ce qui n'est pas le cas si vous marchandez par principe.
Jean, qui est à Bujumbura, au Burundi. En tant qu'étudiant à l'université, je ne pourrais pas poursuivre mes études si les petits commerces venaient à fermer à cause des grandes surfaces. Et en plus, je fais partie, moi, des privilégiés. J'ai une bourse d'études. Et pourtant, je n'ai accès qu'au commerce des pauvres. Inès est à Cotonou. Elle dit, moi je préfère de loin les petits commerces de proximité, je ne vais en supermarché que pour des produits que je ne trouverai pas ailleurs. Apparemment elle n'a pas de problème de pouvoir d'achat, Inès. Et sinon je préfère les petits commerces pour lesquels je n'ai pas besoin de me déplacer à moto ou en voiture. Un petit geste pour la nature. Voilà, appelez-nous maintenant, on a envie de dialoguer avec vous de vive voix sur les supermarchés pratiques ou toxiques chez vous. 33 1 84 22 71 71 toxiques. Non, bien sûr pas pour votre santé, pour l'économie locale, les produits locaux et les petits commerçants. 33 1 84 22 71 71. Oh yeah. 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 Yeah.
Cette milliard de voisins, c'est maintenant.
Olivier Dauvert, on est en pleine COP21 en ce moment. On ne cesse de répéter que nous devons changer durablement nos modes de production et nos modes de consommation. Alors, quel est votre regard sur ces débats, vous, en tant que spécialiste de la grande distribution et tout de même d'un modèle de consommation, à grande échelle?
La distribution n'a pas que des inconvénients quand on cherche à la juger eu égard à ses besoins de consommer de manière un peu plus durable. L'intérêt qu'il y a, par exemple, pour un consommateur d'aller dans un magasin, une grande surface, un supermarché ou un hypermarché, peu importe, c'est qu'en un seul déplacement, il va avoir accès à la totalité de l'offre. S'il faut aller et dans un magasin qui va vous vendre votre épicerie et dans un autre, et puis s'il faut aller dans une ferme pour acheter en circuit court auprès d'un producteur, je vous mets au défi d'avoir une dépense carbone qui soit plus modeste que d'aller dans un magasin.
Quand on voit la taille des hypermarchés aujourd'hui, gigantesque, en plein été, tout climatisé, en plein hiver, chauffé, parfois vide en pleine semaine, il faut bien le dire.
Oui, ça c'est un fait, mais regardez la tendance, on est plutôt aujourd'hui à réduire la surface des grands hypermarchés. Il faudrait pas que vous en restiez à la vision de l'hypermarché des années 90 ou des années 2000. Effectivement, il y a encore des grosses bêtes. Ah non, mais je vous mets au défi de me citer un hypermarché qui, dans les très grandes bêtes, est aujourd'hui plus grand qu'il ne l'était avant.
Non. Statistiquement, les tailles se réduisent,
Les grands hypermarchés sont plutôt en train de réduire leur taille. Je vais vous citer le cas du plus grand hypermarché d'Europe pendant des décennies. Ça a été un Carrefour à Toulouse, à Portet-sur-Garonne, pour être précis. Ce magasin, il a fait jusqu'à 25 000 mètres carrés. Ça veut dire 2,5 hectares. C'est énorme. Aujourd'hui, il ne fait plus que 16 000 mètres carrés. Un tiers de moins. Parce que le client ne se retrouve plus dans ces méga grandes surfaces.
Alors, que représente aujourd'hui la grande distribution, donc les hypermarchés, les supermarchés, dans un pays comme la France ?
Ah, c'est 90% des dépenses alimentaires des foyers. Ça doit manifestement correspondre à une attente des consommateurs, parce que personne n'oblige les consommateurs à aller dans un hypermarché ou un supermarché. Moi, je suis pas exploitant de supermarché. Je n'ai pas à défendre qui que ce soit.
Vous êtes consultant pour la grande distribution.
Je constate. Et pour l'industrie. C'est-à-dire, moi, c'est pas la distribution qui me fait vivre. Donc, je ne fais que constater. 90% des dépenses alimentaires sont aujourd'hui captées par les hypermarchés et les supermarchés, parce que le client trouve probablement que ce qu'on lui propose par rapport à ce qu'on lui en demande, c'est-à-dire le prix, ça le vaut bien. C'est pas les circuits alternatifs qui manquent potentiellement. Ils ne se développent pas aussi rapidement que leur promoteur le voudrait, parce que malgré tout, le supermarché, il a des tas de défauts. Je suis pas en train de vous dire que c'est une forme de vente merveilleuse, mais il en a peut-être moins que les autres.
Il faut quand même rappeler qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la grande distribution, les supermarchés, ça a vraiment constitué un progrès en termes de normes sanitaires, d'abord. Je pense au continent africain à l'heure actuelle qui vit un vrai développement des supermarchés.
Alors, il y a objectivement, et là aussi ce sont des faits, deux apports de la grande distribution si on cherche à le lire dans une logique long terme, c'est-à-dire non pas sur 6 mois mais sur plusieurs décennies. Premièrement, effectivement, vous l'avez dit, c'est que la grande distribution, par les normes qu'elle impose à ses fournisseurs, elle participe à la sécurité alimentaire et sanitaire. Par la gestion de la chaîne de froid qu'elle met en œuvre, y compris dans ses propres magasins, elle participe aussi à une forme de sécurité sanitaire et alimentaire. Et ça, ceux qui découvrent aujourd'hui les supermarchés doivent plutôt s'en réjouir. Et deuxièmement, parce que c'est en fait là aussi, la grande distribution est là comme mode de fonctionnement de court-circuiter les intermédiaires et de chercher à acheter directement auprès des industriels, auprès des transformateurs. Donc ce qui, par principe, est plutôt quelque chose qui va permettre de ramener de la valeur vers le consommateur en ayant le moins d'intermédiaires possible. Tout le monde comprend bien, voire même tout le monde sait bien, qu'un intermédiaire, il a besoin de vivre, il va prélever sa marge au passage. Moins il y a d'intermédiaires, plus les produits peuvent être compétitifs.
Avec la récession économique en Europe, la crise du pouvoir d'achat, est-ce que ça remet tout de même en cause un certain modèle de grande consommation ? Est-ce qu'on observe un essoufflement de la part des supermarchés aujourd'hui qui se livrent une guerre des prix sans merci d'ailleurs ?
Alors, les supermarchés, les hypermarchés aujourd'hui, ils sont confrontés à un phénomène qu'ils n'ont jamais connu. C'est que d'un côté, je parle pour les pays du Nord et en particulier pour la France là, d'un côté donc, le nombre d'euros qui sont dépensés, c'est-à-dire la consommation, ne progresse plus. La consommation, on est toujours sur un très haut niveau de consommation, il n'y a pas de crise de la consommation, mais ça ne progresse plus mécaniquement tous les ans comme on l'a connu pendant des décennies. Et dans le même temps, les hypermarchés, les supermarchés, la grande distribution continuent à ouvrir de nouveaux magasins. Et donc forcément, ça crée une une tension. C'est mécanique, il faut pas être polytechnicien pour le comprendre. Il n'y a pas plus d'euros qui sont dépensés et il y a plus de mètres carrés commerciaux pour les accueillir.
Pourquoi continuer d'ouvrir des grandes
surfaces? Parce que tout le monde est bien d'accord pour dire que il y en a trop, mais qui arrête d'ouvrir en premier? C'est un peu comme une course de Formule 1.
C'est
tout le monde
continue à gagner un peu quand même.
Non, c'est que celui qui ouvre continue à gagner au détriment d'autres. Oui, c'est-à-dire, en macroéconomie, la grande distribution aujourd'hui, elle est confrontée à ce qu'on appelle techniquement une baisse des rendements. Ça veut dire qu'il y a moins d'euros qui sont dépensés par mètre carré.
Et
c'est pour ça qu'ils sont en guerre des prix.
Oui, c'est pas très logique tout de même, au regard de l'environnement,
mais
par exemple.
Est-ce que vous connaissez un acteur économique, quel que soit le sujet, on pourrait parler des médias, qui s'autorégulent? On n'a jamais eu autant de médias, pour autant on n'a pas plus de minutes pour les écouter. Bon, mais quel acteur économique spontanément accepte de s'autoréguler? Pas plus la grande distribution que les autres.
Bon, on donne la parole dans quelques minutes à Martine Donnette, qui est présidente de l'association En Toute Franchise et qui défend le droit au petit commerce d'exister. Vous nous appelez, les voisins et les voisines, pour participer au débat sur les supermarchés qui arrivent sur votre continent, si vous habitez notamment en Afrique. 33 1 84 22 71 71. Yeah, I seen you. Pretty when you brush your hair. Yeah, I like it when you smile. Won't you stay with me just for a little while? Can I take you home?
Angus et Julia Stone chez 7 milliards de voisins sur RFI. Nous sommes en compagnie également pour parler des supermarchés de Martine Donnette. Vous êtes présidente de l'association En Toute Franchise qui défend les petits commerçants. Vous êtes devenue finalement, à partir de vos propres déboires dans le petit commerce, le porte-drapeau de la défense des petits commerçants. Quel est votre constat aujourd'hui après plus de 20 ans de lutte dans ce domaine?
Alors, après 20 ans de lutte, on peut constater que si le petit commerce a disparu, ce n'est pas parce que il y a une volonté du consommateur de faire disparaître les petits commerçants. La volonté, c'est les élus qui ont fait disparaître les commerçants du fait que dans les commissions qui donnent les autorisations, il n'y a plus aucun représentant du petit commerce. Donc, ça se joue entre grande distribution et les élus qui autorisent les implantations. Il faut pas dire que le consommateur ne veut plus de petits commerçants. C'est archi faux. On ne leur laisse pas la place. On fait des PLU, des plans locaux d'urbanisme dans lesquels on ne peut pas installer ni des circuits courts, ni des commerçants, puisque les zones ne sont pas prévues pour les périmètres de sauvegarde pour le commerçant indépendant. On y ajoute maintenant des grandes surfaces qui reprennent la place dans les centres-villes, mais tout ça, c'est par les élus qui donnent les permis de construire. Et si vous interrogez les consommateurs réclament les commerces indépendants, mais les élus ne les écoutent absolument pas.
Mais là, si on regarde la carte de France, Martine Donnette, si on regarde l'ensemble des communes françaises jusqu'aux plus petits villages.
Alors, sur les communes françaises, c'est bien simple. Il y a 36 000 communes. Il y a 18 000 communes qui n'ont plus un commerce indépendant, qui n'ont plus de station-service.
Donc, grosso modo,
qui n'ont plus de boucher, de boulanger. Ils n'ont plus rien. Et vous avez des consommateurs, ils sont obligés de faire de 15 kilomètres pour pouvoir trouver de l'approvisionnement, qui a été mangé par la grande distribution avec le couvert des élus. Moi, je revendique d'abord une mise à plat.
En pleine COP21, c'est pas très bon d'apprendre ça, évidemment.
C'est pas très bon. D'abord, toute la consommation est obligée de se faire en voiture en zone rurale. Mmh. Il y a plus qu'il y a plus
et
de
périurbaine.
Donc vous avez
pas qu'en zone rurale, en zone périurbaine aussi.
Ouais.
Comment c'est pas qu'en zone rurale, en zone périurbaine aussi d'ailleurs.
Ah ben en zone périurbaine,
pas que de la race campagne.
Les Carrefour City, les Carrefour City, les Simply Market, je vais pas faire de la publicité pour eux parce que que ça soit Lydia, ils sont tous, ils ont tous réintégré les centres-villes, mais ils ont réintégré les centres-villes à cause de qui?
Donc
à cause des élus qui leur ont donné les permis de construire.
Si je retiens bien vos chiffres, une commune française sur deux n'a plus de petits commerces. Alors vous nous disiez les consommateurs réclament des petits commerces, néanmoins.
Tout à fait.
En termes de prix, c'est beaucoup plus intéressant d'aller dans un supermarché, non?
Alors, c'est pas le terme de prix qu'ils veulent, c'est le service. Vous avez des personnes âgées, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre d'acheter des yaourts par 12? Vous avez une personne seule, elle veut acheter ses deux yaourts. Elle veut acheter, vous avez des détaillants sur les marchés, vous avez encore des élus qui privilégient encore l'implantation de halles, et vous avez dans ces halles, les camemberts, ils sont divisés par deux parce que vous avez des personnes avec des retraites minables, pour se permettre une consommation, elles divisent les produits que la grande distribution, non, on vous largue
la grande distribution, finalement, à vous écouter, ne correspondrait plus à une population qui se paupérise.
Premièrement, à une population qui se paupérise. Vous avez, quand vous avez des personnes qui ont 400 ou 500 de revenus, elles n'ont plus de voiture. Comment elles font pour aller dans les commerces en périphérie? Ce n'est absolument pas possible. Il n'y a plus le service rendu à la population.
Mais alors, comment expliquez-vous cette connivence dont vous nous parliez entre les élus locaux et la grande distribution et le fait que dans les réunions d'urbanisation, les petits commerçants ne soient plus représentés?
Parce que les élus ont pour objectif, alors ça a commencé par l'ouverture du dimanche. Nous, on s'est battu contre l'ouverture du dimanche. Mais on voit bien maintenant, on va sur une ouverture jusqu'à 22h. Bientôt, il faudra une ouverture 24h sur 24. Et qui est-ce qui va pouvoir apporter ces ouvertures? C'est la grande distribution. Parce que le commerçant, je suis désolée, quand il se lève à 6h du matin, il peut pas faire 24h sur 24. Donc, c'est un objectif des élus. Parce que si vous regardez le ministère du tourisme, le ministère du tourisme va sur une ouverture 24 heures sur 24, que ça soit dans les gares, puisque maintenant les Simply Market vont rentrer, ou les Carrefour Market vont rentrer dans les gares, et ils seront ouverts 24 heures sur 24.
Donc vous voulez dire que ça va être
le commerce de proximité.
Vous voulez dire que ça va être encore pire pour le commerce de proximité?
Ah ben c'est l'élimination totale du commerce de proximité. Ça c'est
Olivier Dauvert,
Qu'est-ce
que vous répondez à Martine Denette? Parce que le débat qu'on a, il concerne pas que la France, il concerne l'Europe, d'ailleurs.
Bien sûr, il concerne tous les pays développés.
Et à terme, ça concernera aussi les pays émergents et en développement qui voient s'implanter des supermarchés. Ça sera le même système.
Je connais le combat de long terme de Martine. Il est très respectable. Il n'y a aucun souci là-dessus, mais je trouve que pour servir sa démonstration, elle prend beaucoup de liberté avec la réalité. Dans les années 80, les consommateurs avaient encore le choix entre les grandes surfaces et les petits commerces.
Donc vous reconnaissez qu'aujourd'hui ils ne l'ont plus?
Ah mais de fait, mais parce que c'est les consommateurs, c'est là où je suis pas du tout d'accord avec son analyse.
Ah non.
Attendez,
je
vous ai laissé parler, Martine. Permettez-moi d'aller
les
au bout quand même.
Les élus, ce sont les élus qui font les plans locaux d'urbanisme.
Mais c'est les consommateurs qui font. Mais c'est les consommateurs qui font ou non le succès commercial d'un magasin par principe, et c'est bien heureux. Donc moi je vous disais que aujourd'hui. Elle a raison sur le diagnostic factuel qu'elle pose, c'est-à-dire il n'y a plus beaucoup de petits commerces. Ça, c'est un fait, elle a raison. Mais là où on n'est pas d'accord, c'est le pourquoi. Parce que dans les années 80, quand on avait encore le choix d'aller dans ces petits magasins...
Il y a 30 ans, quand même.
Oui, mais c'est juste pour vous dire qu'on est en train de chroniquer des mouvements longs, et c'est pour ça qu'ils sont forts, c'est parce qu'ils sont longs. Ou on pourrait parler des stations-service. Dans les années 80, il y avait encore des pompistes dans les petits villages de campagne. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Pourquoi? Parce que le consommateur, petit à petit, a fait le choix d'aller vers des formes de vente qui lui semblaient mieux correspondre. Je vous dis pas ce que je pense à titre personnel, mais en tous les cas, dans les faits, c'est comme ça que ça s'est traduit. On a petit à petit abandonné le pompiste pour aller faire son plein au supermarché parce que c'était moins cher. Et parce que quand il s'agit d'être consommateur, on est très égoïste.
Parce que la grande distribution achète en plus grande quantité, bien sûr.
Oui, et puis parce que quand on est consommateur, on est très égoïste, c'est normal. Quand on est citoyen, on est très altruiste. Et donc, tous les citoyens disent qu'ils veulent des petits commerces, et malheureusement, les consommateurs,
l'émission, c'est vraiment une émission consacrée aux consommateurs et aux citoyens qui, en principe, sont aussi la même personne. Vous restez avec nous, Olivier Dauvert, Martine Donnette aussi, bien évidemment. Appelez-nous au 33 1 84 22 71 61.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. Quel avenir pour les supermarchés? On pourrait dire que c'est globalement tendu. Vous nous le disiez, Olivier Dauvert, spécialiste de la grande distribution. C'est globalement tendu dans les pays développés, hein, puisqu'on arrive à une relative saturation, ce qui n'empêche pas des supermarchés de continuer de s'ouvrir en espérant que ce sera le prédécesseur qui mourra et pas le nouveau supermarché tout moderne. Les professionnels disent en tout cas aujourd'hui que l'avenir des supermarchés est en Afrique. Vous êtes d'accord là-dessus, Olivier Dauvert?
Oui, parce qu'ils cherchent tous des gisements de croissance. Voilà. Ils ont expérimenté, ils ont essayé, ils ont défriché l'Amérique du Sud, l'Asie. Aujourd'hui, ils se tournent vers l'Afrique, tout simplement.
Alors, quels en seront les bénéfices pour le continent? Appelez-nous, les voisins, si vous faites vos achats dans des supermarchés, au 33 1 84 22 71 71. Nous croisons l'avenir des supermarchés sur le continent africain avec l'histoire des supermarchés en France, qui est tout de même très intéressante. Olivier Dauvert, effectivement, vous constatiez que le consommateur a très largement fait son choix, puisque 90% des achats dans l'alimentaire, notamment, et surtout se font dans des supermarchés en France et en Europe. Martine Donnette, vous êtes présidente de l'association En Toute Franchise et vous défendez les petits commerçants. Vous nous disiez en première partie d'émission que la moitié des communes françaises aujourd'hui ne disposent plus de petits commerces, donc il faut prendre sa voiture. Donc pour les personnes âgées, c'est compliqué. En termes d'environnement, c'est pas terrible. Vous souhaitiez répondre à Olivier Dauvert. Martine Donnette.
Oui.
Voilà, vous êtes en liaison avec nous à Aix-en-Provence.
Voilà. Alors, on nous dit les prix, que ça a amené des prix, mais avec l'histoire des prix, il faut savoir aussi qu'on a perdu des emplois. Puisque dans la grande distribution, pour 2 emplois créés, c'est 7 emplois qui disparaissent. Donc, j'aimerais bien savoir, moi, je vais pas incriminer la grande distribution parce qu'elle profite d'un boulevard créé par les élus. Je voudrais savoir, nous, notre cheval de bataille, c'est les élus. Quand ils donnent une autorisation d'urbanisme commercial, jamais ils ne se soucient qu'est-ce que vont devenir tous ces gens qui vont être mis au chômage déjà par la disparition des commerces indépendants et de partout les petites entreprises qui ne sont pas référencées dans la grande distribution.
Mais en général, le discours des élus, c'est de dire justement on permet l'implantation des supermarchés parce que c'est un nouveau bassin d'emploi.
Ce n'est pas un nouveau bassin d'emploi puisqu'il a détruit 7 fois plus que la grande
Martine,
distribution.
Vous avez tout à fait raison.
France.
Vous avez tout à fait raison. Si vous isolez le cas, vous avez raison sur le chiffre que vous donnez. Sauf que la grande distribution, et là je parle d'alimentaire comme de non alimentaire, les fameuses grandes surfaces spécialisées en maison, en décoration, en bricolage, que sais-je encore, elles ont considérablement développé la consommation, ce qui fait, et ça c'est tout aussi factuel que votre chiffre, Martine, qu'aujourd'hui le nombre d'emplois dans le commerce est très nettement supérieur, parce que ce sont des chiffres publics, à ce qu'il était par exemple il y a 20 ans, tout simplement parce qu'on a développé la masse globale de la consommation. Mais c'est vrai, c'est que chaque euro, chaque mètre carré est capable de fonctionner avec plutôt moins de personnel, mais on a considérablement élargi le volume global de la consommation.
Donc elle est de lecture. Les commerces sont fermés, mais ils sont partis travailler dans la grande distribution.
Et c'est surtout que les deux lectures sont justes, elles ne s'opposent pas. Martine a raison de dire que des supermarchés, ça va condamner les petits commerces, elle a raison, et j'ai tout autant raison de dire que le supermarché ou la grande surface, quelle qu'elle soit, elle élargit la consommation, elle la développe. Les deux approches sont justes.
Martine Dauvert?
Non, Martine Dauvert, oui. Pas encore.
Pardon. Martine Donnette,
non,
pardon.
En termes d'emploi, il faudrait quand même qu'on fasse un jour, parce que là, les élus, c'est pareil, ne veulent pas du tout faire, établir les conséquences. C'est pour ça que nous, on réclame une commission d'enquête parlementaire pour savoir justement les conséquences. Parce que depuis qu'il y a la grande distribution, on est quand même à 5 millions de chômeurs. Donc, à un moment donné, ces chômeurs, on va pas pouvoir les payer pendant 20 ans à ne rien faire, puisqu'il n'y a plus d'industrie. Donc, tout ce qui est vendu dans la grande distribution a bien détruit des emplois dans le commerce de proximité, mais aussi a détruit un nombre incalculable de petites industries, de petites fabrications, et surtout a détruit l'agriculture. Parce que je suis désolée, on oublie aussi de dire que dans l'agriculture, il y a quand même un suicide ou deux suicides par jour d'agriculteurs. Donc toutes ces conséquences de la
allusion à des
distribution,
c'est ça, à des producteurs à qui on demande éternellement de diminuer leur prix pour que la grande distribution
voilà.
Pour
et s'il y avait eu aussi, on avait préservé.
Alors
voilà.
Restez en
et
ligne
si
avec
les
nous.
Élus.
Oui, Martine voilà. Donnette, je vous en prie, terminez votre phrase. Après, on va parler de l'Afrique. Je vous en prie.
Voilà. Donc si les élus, ben, j'ai l'impression qu'ils veulent refaire le même modèle en Afrique et que tous les commerces qui vivent de la petite agriculture ou de la petite industrialisation, les mêmes phénomènes vont se reproduire en Afrique.
Ouais. Alors
c'est pour ça que je suis inquiète.
Olivier Dauvert, les supermarchés en Afrique jusque-là, hein, même encore aujourd'hui, c'est tout de même réservé à une élite. Nos auditeurs l'ont souligné, aux expatriés. Les prix sont extrêmement élevés par rapport aux petits commerces, aux achats en vrac, etc.
Alors, ils vous ont
donc
dit les deux.
On est dans une logique inverse.
Ils vous
fait,
ont dit les deux. Certains vous ont dit que ça coûtait plus cher et d'autres vous ont dit que ça coûtait moins cher. En fait, pour comprendre la situation, il faut savoir que dans tous les pays qui sont en développement aujourd'hui, partout dans le monde, c'est en Afrique et c'est aussi dans d'autres continents où je suis allé pour les besoins de mon métier, voir ce que le commerce était, il y a toujours deux types de commerce. D'un côté, il y a le commerce informel, inorganisé, qui déclare pas toujours honnêtement ce qu'il fait et qui du coup est très compétitif parce que dès lors que vous ne payez par exemple pas de taxes, pas de charges, vous pouvez être moins cher que si vous êtes dans ce qu'on appelle le commerce formel et la grande distribution telle que vous l'appelez, quand elle rentre dans un nouveau pays, elle se met tout de suite du bon côté de la ligne parce que sinon de toute façon on va pas la faire rentrer et les politiques que n'aiment pas beaucoup Martine, en tous les cas eux leur intérêt c'est de mettre tout le monde dans le droit chemin, notamment en termes de collecte de taxes. Bon, donc la grande distribution elle est mécaniquement plus cher dans certains pays parce qu'elle est en phase de commerce inorganisé, informel, qui joue beaucoup avec les règles. Donc ça, c'est un premier élément d'explication qu'il ne faut pas négliger, même s'il est peut-être politiquement pas toujours très très correct de le souligner.
Comment peuvent s'implanter durablement des supermarchés en Afrique subsaharienne, alors qu'on le sait très bien, la classe moyenne très aisée qui a le pouvoir d'achat pour acheter dans ces supermarchés, pour l'instant, est encore toute petite. Et entre le haut de gamme, les produits chers et puis le commerce informel, il n'y a pas grand-chose, finalement.
Parce que vous avez besoin d'entendre que c'est un travail de très longue haleine, c'est une très longue marche, et si vous escomptez des résultats l'année prochaine de l'intérêt de la distribution pour l'Afrique, vous les verrez pas, et c'est normal. Je vais changer de continent un instant, je vais aller en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, le premier Carrefour a ouvert il y a exactement 40 ans. En 1975, vous imaginez quel était l'état de ce pays, le Brésil, en 1975. Il fallait quand même être sérieusement courageux pour y aller. Et il fallait surtout pas imaginer que d'un coup de baguette magique, on allait renverser la table. Et ça prendrait forcément beaucoup de temps. Aujourd'hui, Carrefour au Brésil est le deuxième distributeur. Ça a pris 40
derrière,
ans. Derrière Casino, qui a racheté une entreprise brésilienne qui s'appelle Pan de Açúcar.
Donc la France omniprésente hein, dans la grande distribution
on est clairement,
sur le continent
sud-américain. On est clairement les champions du monde de la distribution dans le monde.
Avec les Américains quand même.
En pourcentage de notre activité qui est réalisée à l'étranger, des groupes comme Carrefour, des groupes comme Casino, des groupes comme Auchan, je ne sais pas si vous savez, c'est plus de la moitié de leur activité qui est à l'étranger.
Est-ce que la grande distribution peut parvenir à concurrencer le petit commerce avec des prix plus intéressants en Afrique là,
oui, bien sûr.
Qui commence à s'installer
bien sûr,
pendant 30 ans.
Mais ça prendra, je ne sais pas si c'est 20 ou 30 ans, je sais que ça prendra du temps, et ne serait-ce que parce que si vous regardez bien la manière dont ils y vont pour démarrer, ils n'y vont pas eux-mêmes. Ils ont toujours des partenaires, des affiliés, des franchisés, parce que c'est des métiers, c'est des pays qu'il faut apprendre à découvrir, c'est des pratiques que l'on ne connaît pas. Et donc, mécaniquement aussi, ça prend beaucoup de temps, parce que même si les hypermarchés ou les supermarchés s'appellent Carrefour ou s'appellent Super U ou s'appellent Casino dans ces pays-là, c'est pas des magasins qui appartiennent aux groupes français. C'est des magasins qui appartiennent à des groupes locaux et qui ont pris une franchise pour se développer. Donc ça prend beaucoup de temps aussi.
Et qui sur place également mange le petit commerce hein, de la même façon.
Mais bien évidemment.
Le système est le même.
Mais
hein,
bien évidemment.
On est bien d'accord.
Ce sont des groupes sénégalais qui sont en train de monter des supermarchés sénégalais, etc., etc.
Alors justement, on a envie d'avoir votre point de vue. Dans quelques instants, nous donnons la parole à une voisine. On vous rappelle tout de suite le numéro de téléphone. Non, je vais le rappeler. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins. C'est vous qui faites l'émission.
Katinga est une voisine qui nous appelle de Paris. Bonjour Katinga.
Bonjour Emmanuel.
Vous nous appelez pour nous parler des supermarchés en France ou en Afrique?
Ben moi, je vais vous parler d'un supermarché en Afrique. Je rentre des vacances du Congo, où j'ai fait 2 semaines.
Congo-Kinshasa.
Congo-Kinshasa. Mmh. J'ai été dans un supermarché qui s'appelle Pelou Store pour faire des courses. Bien sûr, tout est un peu cher là-dedans. Mais ce qui m'amène à vous appeler, c'est parce que je me suis posé une question après mes provisions. C'était sur le rapport fiabilité des produits, sur les dates d'opération, sachant que en France, tout ce qui est supermarché, il y a quand même les services sanitaires qui passent pour faire ce contrôle. Mmh. Et à Kinshasa, je me pose la question, avec tout ce qui existe comme corruption, on ne peut pas se cacher ou se voiler la face, est-ce que vraiment tous ces produits sont contrôlés?
Est-ce qu'il n'y a pas des manipulations d'étiquetage, etc.
Voilà, d'étiquetage, parce que bon, nous on arrive, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans ces supermarchés.
Bah, et pour cause, parce que voilà, j'imagine que les prix sont beaucoup plus élevés que dans le commerce.
Pour certains produits, hein, trois fois. Quand on prend par exemple les céréales, les Kellogg's, tout ça, ça coûte terriblement
des
cher.
Des produits importés.
Voilà, c'est pas donné à tout le monde. Mais le problème ne se pose même pas sur les prix pour ceux qui viennent d'Europe, parce qu'ils achètent quand même, mais c'est sur les étiquettes qui se trouvent dessus. Pour les produits frais, est-ce que c'est fiable? Comment faire pour avoir confiance totalement ces produits qui sont exposés puisque nous les achetons.
Dans ces supermarchés où vous allez, Katinga, est-ce que globalement vous avez remarqué qu'il y avait également d'autres produits que des produits importés ou pas? Est-ce qu'il y a des produits congolais par exemple?
Oh, la plupart c'est des produits importés.
Ah oui, d'accord.
Ouais. Parce que ça s'adresse encore une fois.
Le riz ne se fabrique pas au Congo, les céréales ne se fabriquent pas au Congo. Le riz basmati, je l'ai trouvé là-bas, il est terriblement cher. Il vient pas, c'est pas un produit local. La majorité, à part, bon, il y a même certains fruits que j'ai vus qui venaient du Brésil.
Oui. D'accord.
Et pourtant, chez nous,
Dieu sait qu'il y a des bons fruits au Congo.
Oui, il y a des bons fruits. Donc,
Katinga qui nous pose déjà le problème d'un modèle qui n'est pas le modèle de demain des supermarchés en Afrique.
C'est la différence entre la manière dont les supermarchés se sont développés en Europe et dans la manière dont ils se développent en Afrique. Effectivement, en Afrique, on va d'abord s'intéresser à la clientèle la plus fortunée et on va lui vendre des produits d'import, mais tout simplement parce que c'est elle qui le veut. Encore une fois, un commerçant, quel qu'il soit, petit ou grand d'ailleurs, parce que là, il n'y a pas de débat à avoir. Lui, son intérêt, c'est de vendre des produits que le consommateur réclame. Et manifestement, en Afrique, il y a toute une frange de la population qui réclame des produits d'import, qui réclame les marques connues en Europe, que ça soit en alimentaire ou en non alimentaire d'ailleurs. Donc effectivement, c'est une différence, c'est que les supermarchés arrivent souvent d'abord dans ces quartiers plutôt huppés. Et ben tant qu'il y a des consommateurs pour acheter 3 fois le prix des céréales Kellogg's, est-ce qu'il faut leur jeter la pierre que de le faire?
Est-ce qu'un supermarché en Afrique peut durer si il triche sur les étiquettes, notamment sur les dates de péremption, sur des produits qui, on le sait, en fait, peuvent durer un peu plus longtemps? Je pense à des céréales, je pense à des produits en conserve, d'importation.
Je ne vais pas vous faire croire que je connais le cas de Kinshasa, parce que je mentirais. Pour autant, ce que je peux vous dire, c'est que d'une manière générale, que ça soit en Afrique ou ailleurs, dans tous les pays où elle arrive, la distribution est toujours beaucoup plus surveillée que les petits commerces, parce que c'est une façon que les pouvoirs publics locaux ont de dire « Oui, on les a fait venir, mais regardez comme on est dur avec eux ». Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de corruption, parce qu'elle a été très lucide là-dessus, et je trouve que c'est tout à son honneur. Mais dans les faits, oui, les grandes surfaces sont plutôt plus contrôlées que les petits commerçants. Y a-t-il le zéro faute? J'y crois pas une seconde. Le filet est-il plus serré? Oui, ça je peux l'affirmer.
Merci beaucoup de nous avoir appelé, Katinga. Martine Donnette, que vous inspire là ce qu'on raconte sur les modèles qui sont en train d'émerger de supermarchés en Afrique?
Alors, je vais revenir sur le premier thème. C'était la fiscalisation de la grande distribution. La fiscalisation de la grande distribution, il faut savoir que la grande distribution en France exploite des millions de mètres carrés, je dis bien des millions, je crois que c'est plus de 10 millions de mètres carrés, sans que l'État aille rechercher les infractions, ce qui représente plus de 418 milliards. Alors ça, venir dire que le petit commerçant, lui, ne paierait pas toutes les taxes, franchement...
Vous voulez dire qu'en France...
Attendez, Martine, j'ai parlé, je n'ai pas parlé de la France. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, Martine.
Je parle pas de ce que vient de dire Monsieur Dauvert. Je parle que en ce moment, Bercy est en train de mettre des caisses automatiques qui seront reliées directement, que la TVA des caisses des commerçants va être versée directement dans les caisses de Bercy. Ça, c'est donc c'était pas par rapport à Monsieur Dauvert. Ce que je veux dire, moi, c'est que la fiscalisation de la grande distribution, on ne sait pas ce qu'elle paye, parce qu'on sait très bien que quand elle a des difficultés et qu'elle elle va faire du chantage à l'emploi, et elle ne paiera pas toutes les taxes qu'elle devrait payer, ne serait-ce que déjà sur toutes ces surfaces de vente illicites et qu'elle est en abus de position dominante. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on dit que les petits commerçants... serait un peu hors règle. Mais quand le petit commerçant est hors règle, il redistribue, il reconsomme sur place. Donc même, ne serait-ce
que vous voulez dire par là, niveau...
Comment ?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, il redistribue ?
Quand il prend du blague dans la caisse, c'est pour le dépenser.
Un commerçant, que ça sera en France ou que ça sera en Afrique, il ne fait pas des oreillers, il ne va pas aller mettre argent dans des pays défiscalisés.
C'est une façon particulière de justifier les flux illicites. D'accord. Ouais.
Voilà. Il y a une commercialisation directe entre ce que le commerçant a gagné, il va le redistribuer. Oui, bon, il n'engrange pas comme la grande
distribution. C'est une explication qui est très contestable quand même. Martine Donnette, restez
Elle est contestable, mais si par exemple en France, il n'y avait pas 65% de charges sur le commerce indépendant, je parle de charges globales dans la totalité, peut-être que tout le monde, il faudrait si aucun gouvernement ne veut remettre à plat tout le principe, que ça soit de la grande distribution ou de petits commerçants, pour savoir quels sont les avantages de la grande distribution et les avantages du commerçant.
En liaison avec nous, Martine Donnette. Dans quelques instants, nous regardons le paysage des supermarchés en Amérique du Nord. Ça sera à Montréal.
7 milliards de voisins, ça nous rapproche.
On est ensemble. C'est votre vie au quotidien.
Milliards de voisins et la planète sépare.
Direction Montréal à présent, où il est presque 6 heures du matin. Nous sommes en ligne avec Benoît Duguay. Bonjour, merci d'être en ligne de si bon matin avec nous à Paris.
C'est avec plaisir.
Vous êtes spécialiste de la consommation à l'Université du Québec et vous avez publié récemment « Consommer, consumer, dérive de la consommation » aux éditions Liber. Les supermarchés, les centres commerciaux en Amérique du Nord, toujours plus grands, est-ce que ça continue ou est-ce que le modèle a tendance à s'essouffler ?
Ben écoutez, je ne dirais pas qu'il s'essouffle, mais par contre, il est évident que les hypermarchés, bon, de type Auchan, j'ai de la famille à Paris, et je sais, je prends pour exemple les magasins Auchan, qui sont énormes, dans lesquels on trouve toutes les marchandises, incluant la nourriture, c'est très populaire, et je dirais même qu'ils ont même tendance à grossir un peu. Par exemple, il y a la chaîne Walmart, qui nous vient des États-Unis, qui ajoute des surfaces d'alimentation dans ces surfaces qui étaient déjà des magasins de grande distribution. Alors, ce sont maintenant des villes. Les magasins sont tellement grands, c'est effrayant. Par contre, en opposition à ça, on a ce qu'on appelle le showrooming. Le showrooming, c'est un terme qui vient évidemment de l'anglais, c'est une petite vitrine, c'est en réaction aux achats sur le net. Vous savez, beaucoup de gens maintenant achètent sur le net, et même sur le net mobile, à l'aide de leur téléphone intelligent ou de leur tablette, et ils le font même lorsqu'ils sont en déplacement dans des magasins. Hein. On va chez un marchand, on vérifie les prix chez un autre marchand, puis on achète en ligne pendant qu'on est là.
Le showrooming, c'est une sorte de petite surface où on vient regarder des produits et on les commande en ligne en même temps ou plus tard de chez soi. C'est ça l'idée du showrooming.
Exactement. Oui. Donc, on réduit de beaucoup la taille du magasin qui devient une simple vitrine où on a quelques produits à montrer. Et ça touche tous les secteurs, pas seulement des produits, disons, comme des montres ou des vêtements, mais ça touche également les concessionnaires automobiles. Je me souviens, moi, à Paris, d'avoir vu sur les Champs-Élysées, j'imagine qu'il y ait toujours une espèce de petite boutique Renault où on pouvait voir certaines choses. Est-ce que c'est encore là?
Oui, pour donner envie, hein, finalement. D'accord.
Ben voilà, c'est ça. Oui. Donc, vous avez d'un côté les très, 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 très grandes surfaces et de l'autre côté, de toutes petites surfaces qui sont en train de se créer, ce qui va, à mon avis, transformer à long terme.
Et qui s'appuie sur le commerce électronique. Hein. Justement, puisqu'on parle de l'avenir des nouvelles tendances, Olivier Dauvert, les tendances des supermarchés de demain, ça sera quoi? Des caisses entièrement automatiques, des chariots connectés, plus de personnel ou au contraire plutôt les drives qui existent d'ailleurs déjà en Afrique anglophone comme au Ghana où on fait sa commande commerce électronique à la maison et ensuite on vient tout chercher, on remplit le coffre de sa voiture.
Alors si on commence par la place du personnel, c'est vrai qu'aujourd'hui on assiste à une déshumanisation de la ligne de caisse avec de plus en plus de machines et de plus en plus d'automates, tout simplement parce qu'encore une fois là c'est le client qui l'accepte puisque aucun magasin ne propose que des automates, par exemple. Ça n'existe pas. Donc c'est tout simplement parce que le client y va. Je vais vous citer le cas d'une très grande chaîne d'ameublement suédoise qui est jaune et bleu, donc ça doit parler à beaucoup de gens, Ikea pour les autres. Savez-vous que plus d'un débit sur deux, ça veut dire un panier sur deux, passe par des caisses automatiques que le client choisit d'utiliser, tout simplement
parce que c'est le consommateur qui travaille,
à la place des salariés. Parce que ça lui va bien, parce qu'en gros, vous savez, être caissière dans un magasin... Sauf qu'il se trouve que... dans les faits, vous avez le choix. Donc, il faut arrêter d'imaginer qu'on oblige le consommateur à quoi que ce soit. C'est comme celui qui ne veut pas se servir en essence. Il y a 30 ans, il y avait des pompistes partout.
Le choix, ce serait d'avoir deux magasins similaires avec des prix similaires, l'autre pas de caissier.
Mais dans chaque magasin, vous avez le choix, puisque vous avez soit des caisses automatiques, soit des caisses traditionnelles. Dans chaque magasin, vous l'avez
avec
le choix.
Une très grosse queue aux caisses, forcément, puisqu'on a diminué le personnel.
Libre à vous d'accepter de faire la queue.
Il y a un auditeur qui nous appelle de Lomé. Guy, bonjour. Vous êtes en ligne avec nous. Vous nous avez appelé. Bonjour. Vous nous avez appelé au standard 33 1 84 22 71 71. Vous êtes consultant dans la grande distribution au Togo. C'est bien ça, Guy?
Exactement. Sur l'Afrique et les Antilles.
Oui.
Et je suis un vieux professionnel de la grande distribution puisque je suis rentré à Carrefour en 1968.
Ah d'accord. Alors quel est votre regard aujourd'hui sur la très rapidement parce qu'on arrive à la fin de cette émission sur la croissance des supermarchés en Afrique.
Je suis intéressé d'autant plus puisque votre émission est passionnante, mais je voulais dire d'un côté qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de petits industriels qui sont devenus aujourd'hui fabricants de ce qu'on appelle les produits de grandes marques pour Carrefour et autres et qui étaient des petits industriels. À Cantalou, à Perpignan notamment. Et moi ici, si vous voulez, on vit, alors donc je travaille pour le groupe Casino. J'ai, comme me disait votre consultant tout à l'heure, un partenaire ici, mais qui n'est pas du tout de Casino, qui est un local, qui est un Togolais, qui a investi pour aujourd'hui avoir l'enseigne Casino. Et donc on a ouvert un magasin qui a, je dirais, les produits Casino, mais aussi des produits locaux. On s'adapte à la clientèle, comme disait votre dame tout à l'heure, on vend pas les yaourts par 16, mais on les vend à l'unité pour pouvoir satisfaire l'ensemble de la clientèle.
Tout comme le fait le petit commerce.
On fait exactement ce que vous voulez, on met le petit commerce traditionnel africain, entre guillemets, mais sous une enseigne internationale et mondiale. Avec effectivement, on a aussi ce problème de marché parallèle qui arrive directement, et là on rentrerait dans un débat trop difficile.
Mais pour vous, en tout cas, le développement des supermarchés en Afrique n'est pas forcément mauvais pour l'emploi. C'est ce que je comprends de votre analyse. Hein. Merci beaucoup pour votre témoignage, Guy. Vous nous appeliez de Lomé. Il nous reste vraiment très très peu de temps pour conclure. Martine Donnette, vous, qu'est-ce que vous demandez pour que chacun finalement ait sa place dans le paysage économique? Là, on revient à la France, mais ça concerne de nombreux autres pays, puisque vous défendez les petits commerçants.
Je dis que le petit commerçant, c'est lui qui va pouvoir permettre la distribution des produits locaux, hein, parce que quand on revient sur le problème qu'a évoqué Madame Kandinga, que les produits, on va retrouver en Afrique les produits du Brésil, on se retrouve dans la même situation que la France a connue. On ne va pas vendre les produits locaux, et c'est bien les produits locaux. L'Afrique est riche justement de produits locaux. Il faut faire une priorité à son agriculture. Et
elle sera peut-être s'épargner les vicissitudes et les erreurs des supermarchés en France à un certain moment qui continuent d'ailleurs. Hein, je ne sais pas, Olivier Dauvert.
C'est ce que je souhaite.
Je pense qu'on a besoin d'une introspection, c'est-à-dire que nous sommes les consommateurs, les premières sources de ce mal que Martine décrit, par exemple. C'est que c'est bien parce que nous consommons de la tomate en hiver que on fait venir de la tomate du Maroc. C'est pas les distributeurs qui ont décidé de nous faire manger de la tomate. Donc il faut arrêter avec ça. C'est bien la conséquence de ce que nous sommes, c'est-à-dire que nous sommes des consommateurs qui ne raisonnons pas toujours sur les conséquences de nos actes de consommateurs.
Ouais. Première étape, le prix. Deuxième étape, le prix.
Si ça ne se vendait pas, ça s'achète.
Benoît Duguay, vous êtes toujours en ligne avec nous de Montréal. Et les grands débats sur l'environnement, est-ce que ces grands débats actuellement à la COP21 remettent en cause les façons de consommer dans une Amérique du Nord qui, il faut quand même le rappeler, largement en tête des continents pollueurs? Comment vous voyez les choses, vous, spécialiste de la consommation?
Bien, votre collègue que je viens d'entendre a tout à fait raison. Je dis toujours, moi, que nous ne sommes pas des victimes de la consommation, nous en sommes les complices. Hein? Si y a des tomates sur la table l'hiver, parce que nous non plus, on ne peut pas cultiver la tomate chez nous l'hiver, ben c'est parce qu'on les fait venir de Californie ou de Floride, et si les consommateurs n'en achetaient pas, ben il n'y en aurait pas dans les supermarchés. Alors, voilà. Alors, donc, nous sommes des complices de tout ça. Maintenant, il est bien évident qu'il est préférable de consommer local. Hein, l'empreinte écologique est bien moindre lorsqu'on consomme local. Mais par contre, lorsqu'on nous vend les produits locaux 3 fois ou 4 fois le prix d'un produit qui vient de quelques mille kilomètres, le consommateur il dit bon, mais moi c'est bien bon, je veux bien moi faire ma part.
Il faut savoir raison garder dans la guerre des prix, on a bien compris. Merci beaucoup Benoît Duguay, votre livre est à découvrir, Consommer aux éditions Liber. Merci beaucoup Olivier Dauvert d'être venu, vous êtes spécialiste de la grande distribution, il y a le lien vers votre site internet qui est sur notre site RFI.fr à la page des 7 milliards de voisins. Et Martine Donnette, bien sûr il faut lire votre histoire, vous êtes président de l'association En Toute Franchise, vous avez publié Seul face aux géants aux éditions Max Milo. À demain.